à tous. Donc, c'est avec un grand plaisir que la section études germaniques et moi-même accueillons aujourd'hui Hélène Mière-Delacroix, professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à Sorbonne Université. Alors, Hélène Mière-Delacroix travaille sur l'histoire croisée de la France et de l'Allemagne, ainsi que sur la possibilité d'une réflexion européenne et transnationale. Parmi ses dernières publications, on peut mentionner l'ouvrage collectif Emotion International Beziehungen im Kalten Krieg, ainsi que le chapitre d'ouvrage Nicht weniger dans la mer, Perspektiven für eine Zeitenwende in Europa. Elle est l'une des spécialistes les plus reconnues de l'histoire allemande depuis 1945, ainsi que de relations franco-allemandes. Et à ce titre, nous nous réjouissons tout particulièrement qu'elle ait accepté de se déplacer à Lyon pour faire une conférence en rapport avec la question de l'option de situation de la navigation.
Bien, merci beaucoup, merci chers collègues, merci surtout de l'invitation. Donc dans une vie antérieure, quand vous n'étiez pas encore né, j'étais professeure dans cette maison, entre fin 2003 jusqu'à 2008, hein, et donc je reconnais bien les lieux et je suis très volontiers venue lorsque vous m'avez invitée pour parler de cette question qui est donc la question d'option de l'agrégation d'Allemands. Alors, quand vous m'avez demandé de proposer une conférence, je me suis dit, comment fait-on pour proposer un sujet à ce moment de l'année, alors que les enseignements ont lieu, que vous avez eu de très bons enseignants qui vous ont fait un cours déjà sur les contenus, et qu'est-ce que je peux apporter? Donc, j'ai proposé d'intituler cette conférence « Les mutations de l'Allemagne, de la République de Bonn à la République de Berlin ». 1990-2005, donc les mutations de l'Allemagne, en donnant un titre qui a pu vous décevoir. Vous vous êtes dit, oh, mais alors là, c'est très 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 grand, c'est énorme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, l'idée, quand on fait une conférence, c'est pas de vous faire un cours, hein, avec tous les détails, vous allez au contraire raccrocher à votre savoir, hein. L'idée, c'est de vous aider à mobiliser et à mettre en sens, en cohérence, un certain nombre de notions que vous avez apprises, de textes que vous avez lus, d'informations que vous avez engrangées. Donc je ne vais pas vous faire un cours. Je ne vais pas vous raconter les 15 années de 1990 à 2005, et je ne vais pas non plus faire un panorama, tour d'horizon, domaine par domaine, etc. Parce que ça, c'est pas tellement, je ne vois pas tellement de plus-value par rapport à vos enseignements. En revanche, j'aimerais vous proposer de réfléchir un peu ensemble à quelques notions qui traversent cette question. Et c'est pour ça que j'ai donné ce titre, hein, « Les mutations de l'Allemagne, de la République de Bonn à la République de Berlin ». Alors, d'abord, ce n'est pas pour rendre hommage au jury qui a choisi de mettre cette question au programme. Pourquoi c'est un sujet, ces 15 années? Parce que ces 15 années extrêmement denses, qui forment en tant que telles un virage vers, donc mettant un terme, on va revenir là-dessus, à tout un ensemble de développements depuis 1945, et un virage qui nous amène relativement au temps présent, au moins jusqu'au début de l'ère Merkel, et d'un certain nombre de problèmes qui sont toujours actuels. Alors en même temps, on va dire tout change tout le temps. Hein, les mutations, les changements, c'est la réalité. D'abord, c'est le sujet de l'histoire. L'historien, l'historienne s'intéresse à ce qui change, précisément. Quelquefois pour dire que ça ne change pas, mais cette notion du changement, de la transformation. Et puis, parce que c'est notre vie d'humain, et d'être en permanence confronté au changement. Et que donc, cette dimension aussi est intéressante. Donc, c'est d'abord un sujet parce que, en l'appelant comme ça, les mutations de l'Allemagne pose cette question fondamentale quand on est en histoire, le changement face aux éléments de continuité. On ne peut penser le changement que si on est capable d'identifier les continuités et ce que j'appellerais les illusions de la pérennité. Hein, parce qu'il y a la continuité, mais il y a aussi les contenus des choses qui se poursuivent et qui sont, espérons-nous, espèrent les acteurs, pérennes, c'est-à-dire immuables et qui ne changeront pas. Vous voyez, immuable, mutation, je suis déjà dans le sujet. Donc, avec ce sujet, je voulais vous proposer d'interroger à la fois des phénomènes de longue durée, alors je vous rassure, pas de longue durée depuis le Moyen-Âge, hein, de longue durée par rapport à un temps court, qui est ce temps court de ces 15 années, et de poser aussi la question des accélérations. Hein, donc, vous voyez, c'est le changement, mais c'est aussi le temps. Et donc derrière cette notion de changement, j'ai exprès mis le mot de mutation. Parce qu'une mutation, si vous réfléchissez un peu, j'invite toujours, moi, les jeunes qui préparent la grègue avec moi, ou les gens qui sont en recherche, à réfléchir aux mots qu'on utilise, et à utiliser toujours des synonymes. Qu'est-ce qu'une mutation par rapport à un changement? Alors on peut dire finalement que ce n'est pas très très différent, mais la notion de mutation fait penser plutôt à l'idée que le fond reste le même, mais subit des transformations majeures, hein, ou des changements radicaux. Hein, c'est en général ce qui est sous-entendu dans le terme de mutation, sauf que là, si on dit les mutations de l'Allemagne, bah oui, des mutations, ces changements radicaux touchent quoi? Est-ce que ça touche la surface? Est-ce que ça va... c'est très périphérique? Est-ce que le dur au milieu reste le noyau dur? Ou est-ce que les mutations peuvent toucher aussi des fondamentaux? Et puis, si on continue cette image, en génétique en particulier, une mutation, ça qualifie l'apparition brusque, hein, on dit de novo, soudaine, dans tout ou une partie des cellules d'un être vivant, d'un changement dans la structure, hein, de certains gènes, qui sont en général transmis aux générations suivantes. Donc vous voyez qu'avec cette image de mutation, ça me permet aussi de penser cette idée qu'il y a un fond, qu'il y a un changement soudain, et que la structure est transformée et qu'elle trouve une nouvelle pérennité. Et donc cette notion de transfert au successeur, par la génétique, on peut aussi la penser dans l'acception du droit patrimonial, où la mutation, hein, c'est, ça qualifie le transfert d'un bien ou d'un droit d'une personne à une autre. Donc vous voyez, cette interrogation des termes, déjà du sujet que j'ai proposé, permet de comprendre que je vous propose de penser cette période comme une évolution, comme un processus, avec des dynamiques, avec des traits et des forces qui sont pour certaines facilement identifiables, comme l'unification au sens strict. Hein, 1990, ça c'est assez facile à traiter. Il y a aussi des traits et des transformations qui sont plus diffuses, hein, des transformations plus diffuses, des traits plus diffus, plus ou moins lents, et en particulier le plus ou moins lent rapprochement entre les deux parties de l'Allemagne qui s'unifient en 90. Voir la question de la ressemblance. Ça, c'est un processus qui n'a pas du tout la même dynamique, le même rythme et la même vitesse que la réunification de 90. Et puis, il y a encore d'autres transformations qui ne sont visibles qu'a posteriori. C'est-à-dire aujourd'hui, et c'est là qu'on est dans l'approche de l'historien, c'est qu'a posteriori, que l'on peut identifier un certain nombre de modifications que les contemporains n'ont peut-être pas vu. Donc, vous voyez, là, je pose aussi de nouveau quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voyons, que les contemporains ont peut-être vu ou n'ont pas vu, et donc de mettre un peu en perspective cette notion banale du changement. Tout change tout le temps. Et notre point de vue, aussi de contemporain du XXIe siècle, est parfaitement légitime pour regarder cette période, qui est, comme je le dis, cette période d'entre-deux, entre la fin de l'ère Kohl et avant le début de l'ère Merkel, et dont on sait qu'on en a hérité beaucoup de choses. Alors, je continue un petit peu à cerner les notions. Si je parle de dynamique, ça veut dire qu'on parle de structure en mouvement. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de l'approcher. Mais structure en mouvement, c'est compliqué. Hein. On est vite en zone sismique, on ne sait pas trop ce qui bouge. Et donc, une solution facile à laquelle on retourne toujours, c'est d'identifier les acteurs, d'identifier les facteurs de transformation, les facteurs internes et extérieurs, et puis l'environnement, hein, et qui permet donc de poser cette autre partie du sujet que j'ai proposé, de la République de Bonn à la République de Berlin. Alors, c'est un virage, comme je l'ai dit au début, ou est-ce que finalement c'est quelque chose de très progressif? Et on va voir que c'est les deux. En fait, c'est les deux, et c'est ça qui rend le sujet intéressant. Alors, là, j'ai plus une approche de recherche qu'une approche d'agrégation. C'est de réfléchir aussi à la convention du découpage temporel. 1990-2005, là aussi, c'est en histoire... même quand on travaille sur le temps présent, on est obligé de recourir à cette, cet outil de la pensée, de découper son objet. Et il a été décidé donc de le découper de 90 à 2005, avec une justification donnée par le jury. Ça va de l'unification, ils n'ont pas mis 89, ils ont mis 90, à un changement de majorité gouvernementale en 2005 et l'arrivée d'Angela Merkel et d'une grande coalition. Donc, on peut dire que ça se tient parfaitement par les bornes. Et puis à l'intérieur, on a deux majorités successives, vous le savez, la coalition de la CDU-CSU et FDP, puis la coalition rouge-verte, qui permet aussi, une fois qu'on a ces deux, d'interroger la cohérence de l'ensemble. Est-ce que finalement, avoir deux majorités différentes, deux gouvernements différents, est-ce que ça donne une cohérence à cette période, ou est-ce que finalement, ça n'existe pas, 90-2005, et qu'il y a peut-être 90-98, et puis 98-2005 ? Je ne sais pas. Mais l'interrogation quand même, qui conduit peut-être à se dire qu'il y a une cohérence, c'est de se dire que c'est une phase d'adaptation, très claire, à une nouvelle donne. Alors là aussi, ça change tout le temps, donc la nouvelle donne, elle est tout le temps, sauf que là, on va le voir, je le rappellerai, vous le savez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont changé, même si nous savons donc que ça reste un artifice, ce découpage, et qu'on va avoir affaire à un flux de changement dans la période qui n'est pas seulement dans cette cohérence-là. Et puis, alors, si on accepte de jouer le jeu de la convention et du découpage, et si on veut aborder donc le sujet plus largement possible et le plus honnêtement possible, je vous propose de le prendre à la fois, les mutations, comme un mouvement, mais aussi comme un résultat. C'est-à-dire qu'en 2005, on peut arriver à dire, bon ben voilà, là on peut dire ce qui a bougé, ce qui a changé. Et ça, c'est, surtout si on prend le point de vue a posteriori, qui est notre point de vue, notre contemporanéité, ça revient à interroger la qualité des mutations et la portée des mutations. Et ça me conduit donc à une question qui va nous accompagner, qui est dans quelle mesure les transformations des années, alors je vais faire vite, 90 et 2000, sachant qu'on va s'arrêter à 2005, permettent de parler d'une nouvelle République fédérale d'Allemagne, ce qui, là, si on prend un peu de recul, si elle est nouvelle, bah c'est par rapport à quoi? Et là, ça repose les continuités et les effets, donc les continuités avec l'avant et les effets à long terme de cette phase de l'histoire allemande. Alors, on pourrait parler pendant des heures de ce sujet, mais je crois qu'on ne peut le comprendre que si on pose à la fois la question des échelles, qui est une catégorie importante de réflexion sur tous les sujets, en tout cas quand on s'intéresse à l'Allemagne, en particulier quand on s'intéresse à l'Allemagne, en posant la question des échelles et en la combinant avec la question des facteurs. Qu'est-ce qui fait bouger, qu'est-ce qui contribue à faire bouger. Parce que, et là vous allez dire que finalement je retourne chacun des mots de ce sujet dans tous les sens comme une pièce de monnaie, mais c'est le travail intellectuel qu'on doit faire avant de commencer à réfléchir à ce qu'on va dire. J'ai appelé ça les mutations de l'Allemagne. Mais c'est quoi l'Allemagne? C'est qui? C'est qui cette Allemagne? Ici, dans ce sujet, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'on va parler d'un pays, une population, donc l'Allemagne avec les Allemands? Est-ce que c'est un État acteur des relations internationales, donc une entité juridique? C'est un peu tout ça. On va essayer de le définir, mais il faut avoir en tête que c'est à la fois tout ça, c'est-à-dire pas faire comme si, bah oui, l'Allemagne. J'avais un vieux professeur, Alfred Bonfer, qui est mort l'année dernière, qui disait l'Allemagne n'existe pas et les Allemands n'existent pas non plus. Il y a des Allemands qui et puis d'autres qui pas. Voilà. Donc, l'Allemagne au singulier, je ne sais pas ce que c'est. Donc cette convention aussi, de mettre sous un terme l'Allemagne, ne pas partir du principe que vos interlocuteurs savent tout de suite ce que vous voulez dire. Et on va le voir, et ça recoupe la question des échelles. Parce qu'il y a plusieurs niveaux d'Allemagne, et puis il y a plusieurs niveaux d'Allemands. Il y a des Allemands de certaines régions et d'autres pas. Voilà, donc je vais procéder à partir de ça, pour essayer de traiter cette question qu'on a abordée et échafaudée ensemble, en parlant, alors il faut toujours essayer un peu d'organiser les choses. Là, ça me paraît très difficile de faire, peut-être plus ennuyeux, de faire quelque chose de strictement chronologique, même si on n'échappe pas à la chronologie, puisque dans une première partie, je vais vous parler des mutations internes, vraiment directement liées à l'unification allemande. Puisque ça, notre sujet commence en 90 et que c'est précisément ce temps court du changement très rapide. Donc dans un premier temps, je propose de réfléchir à évaluer ces mutations internes. Dans un deuxième temps, je changerai la perspective et je vous proposerai d'interroger le poids des facteurs extérieurs et des changements à l'échelle globale. Vous voyez, donc aussi, là, reculer complètement la focale, hein, puisque j'étais dans les échelles. Pour, dans un troisième temps, plutôt essayer ensemble de dire, ben voilà, alors c'est quoi ? De la République de Bonn à la République de Berlin, est-ce qu'on peut essayer de clarifier les choses entre virage et cohérence, et où on pourra reprendre un certain nombre d'éléments pour les mettre en perspective ? Si on essaie d'évaluer d'abord ce qui saute aux yeux, hein, les mutations internes liées directement à l'unification allemande, alors avant de les prendre sous ma loupe, je reprendrai ce que j'ai évoqué en introduction, qui est la question des temporalités et des échelles. C'est-à-dire que si on prend les mutations internes directement liées à l'unification allemande, il y a un temps extrêmement court, il y a une très très grande vitesse dès 1989, hein, dès l'été 89, le printemps 89, on va dire l'été 89, avec une accélération en 1990, avec une accélération factuelle en termes de décision, et donc on pose des faits qui transforment. Il y a ensuite un tempo assez élevé entre 1990 et 1995, où on a beaucoup, dans beaucoup de domaines, l'impression d'être hors d'haleine, tellement ça va vite, les transformations sont rapides, et à cause de l'ampleur des sommes engagées, hein, des financements engagés, et l'ampleur des restructurations. Et puis, il y a un troisième rythme, qui est un processus moins trépidant, un peu moins visible, un peu plus souterrain, mais qu'il faut prendre en considération, qui sont les adaptations en matière de pratique et de culture politique entre ces deux parties d'Allemagne. Et puis, puisque là aussi, je dis, on regarde les mutations internes directement liées à l'unification allemande, là aussi, l'unification allemande, c'est quoi ? On est d'accord, il y a deux sens. Le mot veut dire deux choses. Il veut dire d'un côté un processus qui est clos le 3 octobre 1990. L'Allemagne est unifiée, hein, avec le transfert des structures et des normes de l'Ouest sur l'Est. Hein. Je vais revenir sur ces questions-là, sur ces aspects-là. L'adhésion donc du territoire de ce qui était la RDA à l'ordre démocratique, juridique, etc., de l'Ouest. Donc, ce processus d'unification, il est clos d'abord par la disparition de l'État est-allemand en tant qu'État, en tant que entité juridique. Et puis, l'unification, c'est aussi un processus plus lent, qu'on pourrait appeler en allemand « Angleichung ». Vous voyez, le terme le dit bien, c'est « gleich », hein, c'est... Donc de se ressembler, d'être de plus en plus similaire. Et donc ce processus plus lent, donc d'unification, hein, je suis dans le processus, il peut être à sens unique, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui prend de l'autre. Il peut être pris par fusion, hein, le fameux « es wächst zusammen, was zusammen gehört hein, »,« zusammen wachsen », c'est ça, ça se mélange, ça s'interpénètre. Ou ça peut être aussi dans les deux sens. Et ça, c'est aussi une chose qui va nous, une question qu'on va se poser. C'est pas seulement le transfert de l'ordre de l'Ouest vers l'Est, mais il se passe aussi des choses à l'Ouest. Donc, vous voyez, rien que ce mot unification, là aussi, il nous invite à avoir un temps très court, très micro, et puis un temps un petit peu plus long avec un regard à la recherche de choses moins évidentes. De même que le mot unité allemande, on peut le prendre comme le point d'arrivée, en disant, ben voilà. Der Tag der Deutschen Einheit. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Voilà, l'unité est faite. Pouf. Après, est-ce qu'on peut vraiment l'isoler, ce point d'arrivée ? Je ne sais pas. Et puis, on peut aussi se dire, l'unité, ben, c'est quand l'unification finit par se faire. À partir de quand c'est homogène ? Il y a une unité quand, a priori, il y a une relative homogénéité. Donc, à partir de quand on est homogène ? Et est-ce qu'à un moment, ça s'arrête de bouger ? Et en fait, non, on sait très bien que ça bouge en permanence. Donc, vous voyez, je suis un peu plus longue sur cette partie parce que c'est aussi une façon de remettre à plat ces notions que j'ai proposées en introduction. Sur les échelles aussi, que j'ai un peu évoquées au début, les mutations internes, si je dis internes, et oui, mais c'est interne à l'Allemagne. Alors, a priori, on a si on dit unification de l'Allemagne, le rapprochement de deux entités, République fédérale d'Allemagne, République démocratique allemande, qui, c'est ça que vous allez trouver dans un dictionnaire, vont créer une seule Allemagne, cette célèbre Allemagne dans son ensemble, hein, Deutschland als Ganzes, qu'on a déjà dès le traité de Potsdam, qui était une espèce de fiction pendant des années, pendant 40 ans, puis qui devient une réalité. Donc est-ce que c'est ça, cette échelle qu'on va prendre comme l'aboutissement d'un processus qui relie d'ailleurs votre question de civilisation du tronc commun avec la question d'option. Voilà. Est-ce que notre Allemagne, dont je parlais, c'est ça, c'est l'aboutissement d'un processus et la fin d'une anomalie. La division étant une anomalie pour, alors plus ou moins selon le perspective des acteurs impliqués, mais quand même au niveau international, c'était assez rare quand même de voir ce genre de situation. On a eu la Corée du Nord, Corée du Sud qui existe encore, mais c'est assez rare, un phénomène de telle nature. Cette échelle, donc on a deux entités qui étaient séparées jusqu'en 90, et donc on peut se dire, bon, bah, on prend le niveau de décision des deux États allemands, et je vais observer les mutations internes au niveau des deux, ce qui étaient les structures de décision des deux États allemands. Sauf que vous savez très bien qu'il y a une des deux parties, c'est-à-dire l'Est, qui est plus concernée que l'autre par l'adaptation, hein, c'est nécessité de s'adapter. Et donc la mutation, s'il y a mutation au sens où vraiment on change de forme, d'aspect, c'est la fameuse ex-RDA, qu'on appelle pendant un bon moment les nouveaux Länder, qui ont un traitement particulier. Après, on peut se poser la question de savoir combien de temps les nouveaux Länder sont des nouveaux Länder aujourd'hui. D'Allemands qui vous disent, mais c'est plus des nouveaux Länder, mais c'est Ostdeutschland. Hein. Donc, ben oui, jusqu'à quand on a le droit d'être nouveau? On est dans le temporaire, dans la mutation, voilà. Donc, il y a bien une dimension régionale dans mon affaire qui va jouer un rôle. Mais, et ça n'exclut pas, bien sûr, des changements pour la partie ouest, à qui, je vous rappelle, on n'a pas demandé son avis. Les Allemands de l'Ouest n'ont pas été interrogés, consultés en 1990 pour savoir s'ils voulaient réaliser l'unité de la nation allemande. On a demandé aux Allemands de l'Est, mais pas aux Allemands de l'Ouest. Donc, cette échelle-là va aussi jouer un rôle. Et puis, maintenant, là aussi, encore au tout début de cette partie, les mutations internes, là aussi, j'interroge déjà les facteurs. Parce que les moteurs qui font qu'il y a eu cette possibilité en 1990, donc, de réaliser l'unification de ce pays et rétablir une Allemagne dans son ensemble, on peut en voir trois, si vous voulez. Il y a un facteur, j'appellerais populaire, peut-être au sens de Volks en allemand, toujours avec la difficulté du mot Volk qui est très polysémique en allemand. C'est-à-dire, le premier facteur, c'est une demande d'en bas, une demande de la rue, hein, cette fameuse révolution pacifique de 89, avec une dynamique particulière, un horizon d'attente assez court, finalement, pour ces acteurs, et un horizon assez illuminé et florissant, et des espoirs entre 89 et 90. En 90, il y a encore beaucoup d'espoir, avec une illusion qui va être d'autant plus porteuse de déception et d'un sentiment de trahison. Donc ça, c'est un des, il faut pas l'oublier, la demande, elle est quand même venue d'en bas, de la rue, de gens qui bravaient l'interdiction de manifester en RDA pour dire d'abord « Wir sind das Volk », et après dire « Wir sind ein Volk ». Bon. Il y a un facteur ou un moteur que j'appellerais juridico-moral. Bon, c'est une invention de moi, hein. Je l'appelle ça comme ça pour dire qu'il y a deux mots, enfin, c'est à la fois juridique et moral. C'est le fameux « Wille auf Einigungsgebot », hein, le commandement de la réunification qui est dans le préambule de la loi fondamentale et qui intime aux responsables politiques l'obligation de saisir toute opportunité. Et donc là, c'est un facteur. Une opportunité se présente à saisir. Et puis, il y a un autre moteur ou facteur, alors là, j'ai encore inventé un mot encore plus laid, qui serait politico-gestionnaire. C'est vraiment très, très laid, mais ça veut dire que pourquoi est-ce qu'il y a accélération et transformation rapide? Vous le savez, c'est pour arrêter l'hémorragie. C'est-à-dire pour arrêter la fuite massive d'Allemands de l'Est qui, une fois les frontières ouvertes, cherchent leur bonheur vers l'Ouest et estiment qu'il vaut mieux laisser derrière soi ce qu'on n'aime plus et chercher une meilleure chance à l'Ouest. Ce qui a une dimension pour les responsables politiques de l'Ouest, mais aussi de l'Est, qui sont aussi en possibilité d'agir ou de donner leur avis, une dimension de gestion du territoire. Si vous avez un pays qui se vide de sa population, c'est très compliqué, surtout quand cette population va dans l'Ouest, où on est déjà très nombreux, où il y a des problèmes de logement et des problèmes de chômage. Donc il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, qui est la nécessité d'agir. Donc gestion du territoire, gestion des personnes. Bon, une fois que j'ai posé ça, donc les mutations internes liées directement à l'unification allemande, elles sont faciles à définir. Ça, c'est sûrement la partie la plus facile du sujet. C'est la transformation réelle, dans les faits et dans le droit, évidente en 1990. L'unification allemande, l'Allemagne s'est agrandie, voilà, territorialement agrandie. L'unification a eu lieu en application de l'article 23 de la loi fondamentale, consistant en l'adhésion des 5 Länder recréés, puisqu'ils avaient été abolis en 1952, l'adhésion des 5 Länder de l'Est à l'ordre démocratique de la RFA. L'unification allemande, c'est ça. Juridiquement, c'est ça, et ce n'est rien d'autre. Et cette adhésion à l'ordre démocratique de la RFA a été votée le 23 août 1990 par la Chambre du peuple, hein, la Volkskammer, de la Nord-DDR, de la RDA qui existait encore. Donc, là aussi, cette transformation, quand même, mutation très importante, c'est un élargissement, non seulement de l'espace territorial, mais de l'espace d'application de la loi fondamentale. Et puis, puisque je suis toujours à réfléchir aux échelles, c'est aussi le retour de l'existence du niveau régional dans l'Est de l'Allemagne, puisque l'Est de l'Allemagne a été, la RDA, on avait recréé des Länder qui avaient été eux-mêmes abolis par les nazis, et comme vous le savez, réforme administrative de RDA en 1952, on avait aboli les Länder pour établir un système centralisé avec les Bezirke. Donc là aussi, c'est une mutation vécue au niveau régional, au niveau local. Le Land réapparaît dans l'espace de la RDA. Donc on a une extension territoriale organisée différemment, une population en augmentation. Si on additionne les chiffres de 90, alors là, moi, c'est les chiffres des statistes que j'aime. Après, ils varient un petit peu. Mais enfin, en gros, on a 63,7 millions à l'ouest, auxquels on rajoute les 16 millions de l'est. Il y en avait eu 17, mais il y en avait pas mal qui sont passés. On arrive, unification allemande, 79,7 millions. En gros, 80 millions. Voilà. C'est une Allemagne qui s'appelle Allemagne fédérale, République fédérale d'Allemagne, qui continue toujours à s'appeler comme ça, mais qui, au lieu de 63,5 millions, devient 80 millions. Et puis, à l'intérieur, il y a 500 000 qui est passé d'est en ouest entre 89 et 90. Il y a à peu près 450 000. Hein, c'est quand même beaucoup de gens, 500 000 qui sont passés. Le résultat est donc un seul espace, cette Allemagne, vraiment première grande mutation, qu'on va appeler nationale, on reviendra peut-être sur cette question, mais qui voilà, résout aussi ce problème-là. Un seul espace administratif, un seul espace politique d'une république fédérale, et qui est démocratique aussi, et qui donc a pris le terme, et qui continue à s'appeler République fédérale d'Allemagne, avec le traité, vous le savez, signé le 31 août 90, entré en vigueur le 3 octobre 90. Mais, parce qu'il faut toujours être impertinent dans son cerveau, c'est pas le 3 octobre 90 que le système démocratique, d'une certaine façon, des libertés fondamentales, en particulier du droit à l'autodétermination, est passé à l'Est. Les élections du 18 mars 90, premières élections libres à RDA, à la Chambre du peuple, ben c'est déjà un transfert d'un modèle d'autodétermination par la souveraineté populaire. L'élection de la Chambre du peuple avec une offre pluraliste, qui était une chose qui n'était pas une réalité en RDA derrière la Nationale Front. Donc la signification, elle est pour l'Est surtout, ce sont des nouvelles libertés, les libertés auxquelles on a aspiré et pour lesquelles on est descendu dans la rue. Alors, qu'on n'ait pas nécessairement voulu exactement cela, c'est un autre sujet. Mais officiellement, on a donc voulu les nouvelles libertés. Et avec cette unification, on a donc cette mutation majeure pour l'Est de l'Allemagne, où l'ensemble du corpus des lois, des droits fondamentaux de la loi fondamentale, hein, de la Grundgesetz, les libertés publiques sont transférées à l'Est avec et là c'est plus de la technique, ce que ça signifie en termes d'adaptation pour l'administration dans l'Est de l'Allemagne, qui doit se soumettre, et là c'est beaucoup plus long, à un processus d'apprentissage des règles, des techniques, et qui contribue à la venue d'experts de l'Ouest qui arrivent, et qui deviennent des Bessavesis, et qui expliquent, on fait ça comme ça, vous ne savez pas gérer un budget, etc. Alors, les transformations induites par les traités, on a la première, on l'a vu, c'est celle de l'application de la loi fondamentale à l'ensemble du territoire. Après, on peut, si on prend les autres traités, évidemment, unification économique, monétaire, sociale, par le traité du 18 mai 90, entré en vigueur le 1er juillet 90. Hein, vous le savez, avant d'être un État unifié d'un point de vue politique et en droit, c'est d'abord un État unifié. Il n'y a plus qu'un espace économique, monétaire et social, même s'il y a quelques petites règles d'adaptation. Et cette mutation est importante, certes pour l'Allemagne de l'Est en particulier, mais elle est globalement aussi pour l'ensemble de l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Ouest est aussi touché avec un nouvel espace unique, une seule monnaie, le Deutsche Mark, un ordre économique commun fondé sur l'économie de marché, et de même un corpus légal commun, notamment fiscal, qui a... Alors on pourrait dire que c'est le système de l'Ouest qui est transféré à l'Est, sauf que dans la gestion des masses, l'Ouest est aussi impacté par ce phénomène. Alors après, bien évidemment, il y a des mutations qui touchent l'Est, essentiellement l'Est, l'ancienne RDA seule. C'est-à-dire, le mot mutation n'est même pas suffisant, c'est un bouleversement, hein, c'est une révolution au sens retournement complet. J'irais même jusqu'à oser le jeu de mots et dire c'est une fusion au sens de fondre. Hein, il y a plein de choses qui fondent, qui disparaissent. Et qui sont remplacés complètement. Vous prenez le système scolaire, par exemple, il est complètement changé. Je ne parle pas du système de garde d'enfants. Ces mutations sont aussi très fortement liées à la volonté d'effacer les injustices de la période d'occupation soviétique et du régime communiste, avec l'idée de réparer et rétablir. Vous voyez, le « ré », il est important, c'est le « re », cette notion des « restitutions ». Ça, il y a une fiction de rétablir un état antérieur. Mais c'est toujours dur d'aller contre le temps. Hein. Quand il s'est passé des 40 ans de changement, c'est dur de repartir en arrière et de faire comme si les choses n'avaient pas eu lieu. On a voulu effacer, réparer ces injustices diverses à différents niveaux, y compris d'individus, d'anciens propriétaires à qui on avait saisi leurs biens. Et donc ces restitutions ont bien évidemment d'abord des effets immédiats sur qui est propriétaire de quoi et qui est le propriétaire à qui je dois payer mon loyer, mais vous le savez, a des effets extrêmement importants sur la restructuration économique, puisque tant qu'il y a une incertitude sur la propriété de tel bien, de telle terre ou de telle usine, c'est compliqué de s'adapter rapidement à un nouveau système. Donc, ça, c'est un point à ne pas oublier. L'autre grande mutation, et ça, vous le savez, c'est celle à laquelle vous pensez en premier, c'est le choc de l'adaptation du système, c'est-à-dire d'éliminer le système d'économie planifiée et comme on l'a dit, transférer l'ensemble du corpus juridique et des pratiques et des règles de l'Ouest du système d'économie de marché qui signifiait la privatisation de l'appareil de production est-allemand. Et ça, cette phase dure à peu près 5 ans et c'est ce temps intermédiaire dont j'ai parlé mais qui est extrêmement brutal aussi. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la Treuhand, parce que vous avez eu le cours sur la Treuhand, comme vous savez qu'elle a été mise en place par une loi de mars 90 déjà, et qui dure pendant 4 ans, jusqu'en 94, avec pour mission de privatiser, assainir et, s'il le faut, liquider, et qui touche, et qui doit s'occuper de 13 000 entreprises à peu près. Hein, et qui était c'est assez herculéen comme entreprise, et qui a pour effet, certes, de transformer le pays parce qu'il modifie les structures de l'appareil de production, mais qui conduit à une désindustrialisation très rapide et un chômage de masse. On sait qu'en 92, on est à 2 ans après l'unification, il n'y a plus que la moitié des actifs a perdu son travail. Donc c'est quelque chose qui est un phénomène très très massif. Et on peut parler d'effondrement, auquel s'ajoute le phénomène de remplacement des élites. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec la venue d'experts, mais ces experts ont aussi voilà, il y a aussi des acheteurs étrangers et puis des cadres qui arrivent. Et je reviendrai un peu sur cet aspect-là, mais c'est aussi pas, ça fait partie de ces grands changements. Et puis, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est pour ça que je vous ai dès le début parlé des différentes échelles. Hein, jamais penser toujours l'Allemagne, la RDA, la RFA. Pensez, descendez, on a déjà vu l'échelle régionale, mais pensez aux gens, hein, aux individus. Le changement du mode de vie à l'Est, ça aussi, c'est une mutation très importante. Hein. L'accès aux biens de consommation. Et d'ailleurs, cette demande telle d'accès aux biens de consommation de l'Ouest qui a accéléré encore l'effondrement de l'appareil de production, puisqu'on ne voulait plus du dentifrice produit sur place et du mauvais café, parce qu'on préférait le Colgate, etc. Et si vous n'achetez pas le dentifrice produit à côté de chez vous, bien, l'usine ferme. Et donc, cette mutation-là, elle a... Je crois que si on se met au niveau des gens et de la mémoire, c'est probablement un des premiers souvenirs que les gens ont. C'est d'un seul coup, on a pu acheter des choses, sans aller jusqu'aux histoires de bananes qui ont été utilisées aussi pour se moquer des Allemands de l'Est. Mais l'accès à des biens de consommation, mais aussi l'arrivée d'infrastructures dans l'Est de l'Allemagne, la modernisation de ce pays. Il faut voir alors, non seulement d'où on partait, l'état des routes, je me suis un peu promenée en RDA... Nord RDA, DDR en 90, les routes étaient dans un état absolument catastrophique. Il y a eu une modernisation qui a dépassé l'Ouest, enfin qui a amené un niveau d'infrastructure, des piscines, des patinoires, des ronds-points, enfin tout ce que vous voulez, phénoménal. Donc qui a, là aussi, par rapport à l'Ouest, modifié la répartition. Mais aussi, changement du mode de vie pour les gens, c'est la perte du droit à l'emploi, hein, de l'emploi assuré. Du droit au logement et puis du système collectif d'organisation de la société. Je dis ça rapidement pour que vous voyez à peu près tout ce qu'on peut dire sur le système collectif d'organisation de la société. Considéré comme rejetable en 89, quand on descend dans la rue, et finalement un peu regretté peu de temps après. Et puis, si on a des changements pour la RDA, qui sont les plus évidents dont on est parti, il y a des changements pour l'ensemble aussi, en particulier pour l'Ouest. N'oubliez pas qu'on a dû quand même changer, adapter la Constitution. Ce n'est pas parce qu'il y a eu adhésion des 5 Länder de l'Est à l'ordre démocratique de l'Ouest qu'on n'a pas changé la Constitution. On a modifié la Constitution, on a modifié le préambule qui disait qu'il faudrait un jour unifier. Or, le préambule devient le peuple dans ses Länder, blablabla, a réalisé son unité dans la libre autodétermination. L'article 23 a été changé, il a d'abord été retiré puis remis pour l'Europe. L'article 146 a été modifié, et donc le caractère définitif de cette organisation politique et de cet ordre constitutionnel est aussi quelque chose qui touche l'ensemble de l'Allemagne et aussi les Allemands de l'Ouest, de même que l'organisation intérieure, le nombre de voix au Bundesrat, enfin, il y a eu tout un ensemble de modifications de cette Allemagne fédérale précédente qui a un peu changé. Et puis, parce que c'est toujours ce qui fait le plus mal, c'est le financement de l'unité, les chiffres pharaoniques de transfert de l'Ouest vers l'Est. Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais bon, on peut en retenir plusieurs. 2000 milliards de marques en 2003, c'est pas 2005, mais bon, c'est assez facile à se retenir. Hein. C'est 2 billions, comme on dit en allemand, 2000 milliards. Et vous connaissez donc les règles, le pacte de solidarité, qui a mis une charge fiscale pour tous, y compris sur les Allemands de l'Ouest, qui ont payé pour ressentir à l'Ouest une solidarité, un effort fait, qui a conduit à une hausse de l'endettement de l'Allemagne, le Fonds Deutsche Einheit, le programme Aufbau Ost, enfin c'est toute cette liste que vous avez dans vos cours. Ça a des conséquences budgétaires, bien sûr, j'évoque la hausse de l'endettement, mais dans les conséquences budgétaires, ben, il y a aussi l'équilibre entre les Länder, hein, ce qu'on appelle la fameuse péréquation entre les Länder, qui fait que dans un État fédéral, vous avez les Länder plus riches, essentiellement ils sont plus riches parce qu'il y a de la taxe professionnelle, hein, parce qu'il y a de l'activité économique, qui paye pour les Länder les plus pauvres, c'est-à-dire les plus déshérités, les plus désindustrialisés, etc. Bah, je ne vais pas vous faire de dessin. Avant la réunification, il y avait à l'ouest des Länder qui étaient bénéficiaires d'aide dans cette péréquation. À partir de l'unification, tous les Länder de l'ouest deviennent contributeurs nets. Et tous les Länder de l'Est, les 5, reçoivent ces aides. Donc si vous mettez à la place, je prends un exemple d'un tout petit land, mais qui l'a parfaitement senti, c'est la Sarre. La Sarre était, depuis des décennies, profitait de la péréquation. Et bien, du jour au lendemain, on leur a dit, vous êtes riches et vous allez payer pour aider le Mecklembourg-Vorpommern. voyez ? Donc ça, c'est aussi des effets, des mutations qui... Et quand on reçoit plus d'argent et qu'on doit en payer, ça veut dire qu'on doit rogner sur le budget du Land et que donc on renonce à des investissements d'infrastructures, autre chose comme ça. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous invitais dès le début à prendre de la hauteur et à jouer sur ces échelles. C'est-à-dire à toujours descendre au niveau des gens, aller au niveau intermédiaire des régions et puis au niveau de l'État pour ne pas faire une histoire complètement désincarnée de M. Kohl et M. de Mazière. Voilà, donc réorganisation de l'ensemble, et puis peut-être pour terminer ce petit tour d'horizon, mais c'est là où il y a le plus de choses dans cette partie, les mutations internes issues directement de l'unification, ben c'est la rapide perception, et là c'est ça qui est un peu contradictoire, de deux entités qui se maintiennent. C'est-à-dire au moment de l'unification juridique et économique, en fait apparaît l'existence pérenne de deux entités. Il y a l'Ouest et il y a l'Est. Et ça, c'est un changement. Alors, on peut dire qu'il était in spe, si on veut, à partir du moment où il y avait la division. Mais là, à partir du moment où on est dans le même pays, eh bien, le fait qu'il y ait les gens de l'Est et les gens de l'Ouest est une expérience, un changement qui ont contribué à ce que s'installe une relation dans les différents espaces de l'Allemagne avec, un, la construction. Alors, après, on peut dire construction au sens critique ou au sens simplement descriptif du narratif de la colonisation, l'Ouest qui aurait colonisé l'Est, avec la fameuse formule des Vessis et des Ossis, et qui apparaissent très 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 vite. Dès 1995, on a des sondages absolument clairs. C'est pas ça qu'on avait voulu. On n'a pas voulu les choses comme ça. Les Blum et Landschaft ne sont pas arrivés et ils arrivent, ils savent mieux que nous. Et donc, aussi un phénomène de méfiance. Et là je descends encore d'un cran, la construction depuis l'Ouest des Allemands de l'Est, comme, pour le dire vite, c'est un peuple de collabos, les collabos de la Stasi. C'est toutes ces premières années des années 90 où, question de savoir, tous ces gens de l'Est, ils avaient quelque chose à voir avec la Stasi. Ils étaient IM, d'une façon ou d'une autre. Et ça, cette dimension-là est apparue. D'autant plus qu'il y a eu l'ouverture des archives, vous le savez, l'ouverture des archives donc de la Stasi, avec d'abord la décision de sauver ces archives et puis de les ouvrir et de les rendre accessibles, la commission d'enquête sur les soirées et les conséquences de la dictature SED au Bundestag, et là, donc la mise en place de quelque chose qui, d'un changement qui dure jusqu'à presque aujourd'hui encore dans les têtes, c'est-à-dire cette commission d'enquête sur l'histoire de la dictature SED, c'est son nom. D'un côté, pour certains, c'était une réparation de la justice, il fallait nommer les coupables, il fallait écrire noir sur blanc quelles étaient les responsabilités et punir les responsables, versus l'autre narratif de dire ça n'a servi qu'à diviser la société et à créer ces deux ensembles, les collabos de la Stasi et puis les gens parfaits de l'Ouest. Donc vous voyez que ces phénomènes, ces changements issus immédiatement sont assez nombreux. La deuxième partie va être un peu plus courte, mais elle est importante, c'est interroger le poids des facteurs extérieurs et des changements à l'échelle globale dans les mutations de l'Allemagne de 90 à 2005. Alors d'abord, ça aussi vous le savez, en 1990, il y a l'intervention d'acteurs et de décideurs extérieurs, qui ne sont pas allemands. Et ça fait partie de l'unification, en vertu des droits et responsabilités qu'ont les Alliés en 1945, confirmés plusieurs fois, donc en 1945, en 1954 pour la partie occidentale avec les traités de Paris, en 1971 avec le traité sur Berlin, enfin l'accord quadripartite sur Berlin. Et donc il y a eu l'intervention d'acteurs qui étaient en charge de l'Allemagne, mais qui n'étaient pas des Allemands. Là aussi, vous avez votre tiroir du cours sur les négociations 2 plus 4, le traité du 12 septembre, traité de Moscou, conduisant à la levée des droits et des responsabilités des alliés sur l'Allemagne, donc au renoncement d'un certain nombre de prérogatives, qui a pour effet une mutation quand même absolument importante, c'est que l'Allemagne se retrouve à avoir sa souveraineté pleine et entière. Souveraineté pleine et entière, ça signifie aussi une mutation en droit international. Donc, vous voyez, on change encore de focale. Et donc, un changement du statut de l'Allemagne. L'Allemagne n'est plus un objet, même si on le traitait gentiment, on n'est plus un objet sur lequel d'autres pays ont des droits et des responsabilités. Ça conduit donc à un changement de la position de l'Allemagne sur la scène internationale. Et là, je voudrais insister sur, alors certes, les changements, les ruptures, mais aussi sur la continuité. C'est aussi une façon toujours de dire, oui, mais tout change, mais tout ne change pas complètement non plus. Ces changements se font dans le maintien d'une grande continuité. Alors, cette transformation, elle s'est faite d'autant plus facilement qu'il y a eu transformation du cadre extérieur. La fin de la guerre froide a modifié. Donc, l'Allemagne change de position, de statut international, au moment où, de toute façon, tout l'ensemble bouge. L'Allemagne devient, et là, vous voyez, je prends, là, pour le coup, un singulier, parce que c'est l'Allemagne en tant qu'acteur des relations internationales, c'est-à-dire un État qui a une existence à l'ONU, qui a donc l'ensemble de sa souveraineté et qui est représenté par, son exécutif, ses diplomates. Acteur reconnu, qui atteint la maturité, qui atteint une forme de maturité et qui surtout tient à conserver l'acquis de son image de puissance pacifique, puissance malgré soi, mais qui devient une puissance pacifique, engagée dans le multilatéralisme, et on pourrait même parler encore plus même d'intensification, c'est même pas de la continuité, c'est de l'intensification de ce qu'il y avait avant. Au moment où il y a élargissement de l'horizon, en raison aussi de la transformation du cadre extérieur, mais aussi parce que l'Allemagne se trouve au centre du continent, cette fameuse représentation spatiale que nous avons, qui change complètement l'Allemagne qui était au contact, l'Allemagne fédérale, qui était au contact du bloc de l'Est, l'Allemagne dans son ensemble, Est et Ouest, qui était le point de contact de ces deux blocs, et qui, l'Allemagne, ben, y a, non seulement c'est plus du contact, mais c'est au contraire un espace ouvert au centre du continent. Et ce phénomène a lieu au moment d'un espoir en un nouvel ordre international avec la victoire des idées libérales, hein, la victoire de la démocratie, cette fameuse illusion de la fin de l'histoire. Et puis, il ne nous resterait qu'à engranger les dividendes de la paix, hein, comme on l'a dit à l'époque. Alors, avec le retour, aujourd'hui, on voit les choses un petit peu différemment, mais on le voit bien, ça, c'est une mutation quand même importante, tout en ayant le maintien d'une pérennité, une continuité. L'Allemagne n'a pas changé pour cela. C'est une force de paix, toujours multilatérale, politique de la retenue, etc. Deuxième sous-élément, c'est, il faut penser à la pression des événements extérieurs qui vont conduire les Allemands, l'Allemagne, là pour le coup je parle aussi des dirigeants, à repenser le rôle particulier de l'Allemagne, hein, et qu'il y a des pressions qui sont assez nombreuses. Si je vais assez vite, la résistance de l'Allemagne à cette demande insistante de participer à des opérations des Nations Unies, la première guerre du Golfe en 91, et cette demande insistante des partenaires de dire ben voilà, maintenant vous êtes un État normal, donc il faut participer à nos côtés, et cette résistance allemande à le faire, et en préférant se contenter de l'aide logistique. Hein, les interventions sont très très axées sur une aide logistique. Et puis la question se posant au moment du dilemme de la reconnaissance de la Croatie, au moment du début des guerres en Yougoslavie, qui conduit les dirigeants, et là je parle des forces politiques, hein, puisque c'est une discussion qui a lieu au Bundestag essentiellement, de repenser la retenue, après la levée de l'interdiction absolue par la Cour constitutionnelle fédérale en juillet 1994 d'intervention hors du cadre OTAN, à condition que le Bundestag donne son accord toujours. Et puis, si on prend sur cette palette encore un autre exemple, le refus allemand en 2002 de suivre le grand allié américain dans l'opération de punition de l'Irak de Saddam Hussein en 2002. Malgré la pression, il y a eu une résistance. Donc là, vous voyez, là aussi, on peut jouer sur mes changements, mes mutations. À l'intérieur de grandes forces de continuité, on ose, hein, M. Schröder a osé dire aux Américains, Bush fils, eh bien non, on n'ira pas. Vous allez rire, mais nous n'irons pas. Nous allons faire comme les Français. Malgré tout, participation à des interventions collectives, il suffit d'évoquer donc le Kosovo en 1999, qui conduit à quand même un changement de paradigme que la Bundeswehr puisse intervenir sur des champs extérieurs. Ça, je ne développerai pas non plus. De même que, et là, il faudrait prendre encore cette échelle intermédiaire de l'Europe, un engagement accru de l'Allemagne fédérale, que je continue à appeler Allemagne fédérale, c'est comme ça qu'elle s'appelle, hein, République fédérale d'Allemagne, donc l'Allemagne, participation à la création de l'Union européenne par l'accord de Maastricht, l'Allemagne très favorable à l'élargissement à l'Est, etc. Et puis, ce qui peut peut-être un peu vous surprendre, parce que vous vous dites, mais c'est bizarre, on n'en a pas encore parlé, Moi, je mettrais dans cette partie plutôt sur vraiment les contraintes extérieures, pas seulement d'acteurs qui interviennent et qui disent il faut faire ci ou il faut faire ça, mais qui est aussi la pression de la globalisation, comme on dit en allemand, de la mondialisation, comme on dit plutôt en français. C'est la confrontation du modèle allemand à la nouvelle mondialisation. Hein, cette mondialisation qu'on peut appeler... Alors, je dis la nouvelle parce que si vous êtes un peu historien, vous devez savoir qu'il y en a eu plusieurs vagues et que ça ne date pas du XXe siècle. Hein. Libéralisation... circulation de la main-d'œuvre et délocalisation. Hein, trois mots, en gros, qui donnent les grands traits de ce nouvel espace et qui posent, bien sûr, la question des débouchés extérieurs de la production allemande et donc de l'Allemagne comme lieu de production, comme on dit en allemand, Standort Deutschland, conduisant à une certaine inquiétude quant à la pérennité de ce modèle, à la fois... porté vers l'exportation, là il n'y a pas beaucoup d'alternatives, mais surtout le fait de pouvoir continuer à produire allemand, et donc l'idée qu'il y aurait une nécessité d'adapter le modèle allemand, de changer le modèle allemand pour faire face à ces problèmes de compétitivité. Et là, il suffit, je vous renvoie aussi à vos cours, la récession de 1998, l'Allemagne homme malade de l'Europe, et qui justifie, qui fonde, au sens premier, hein, les réformes de la coalition rouge-verte, l'agenda de 2010, les réformes Hartz, avec des répercussions bien connues de changements, et alors là, vraiment majeurs, dans le système social de l'Allemagne. Vous voyez, donc ça m'amène à mon troisième point, que j'ai appelé donc, la République de Bonn, la République de Berlin, essai de clarification. Donc, essai de clarification entre virage et cohérence. D'abord, comment l'Allemagne de Bonn est devenue l'Allemagne de Berlin? Parce que je l'ai mis dans le titre exprès, c'est un grand sujet, il y a plein de façons de le comprendre, qu'est-ce qu'on associe au terme? Alors, vous savez, c'est d'abord lié au transfert factuel de la capitale et la question du siège des institutions. La loi de 1994, la décision donc prise en juin 91, mais donc la loi de 94, puis bon, le déménagement après, enfin, et surtout les répercussions, hein, la portée de cette décision d'un transfert en termes d'infrastructures, de localisation des élites politiques, des élites économiques. Alors elles ne sont pas toutes au même endroit, on n'est pas comme en France où il y a une concentration des élites économiques à peu près au même endroit que des élites politiques, etc. En Allemagne c'est beaucoup plus diffus, mais quand même où le fait de déplacer le centre du pouvoir du législatif et de l'exécutif au moins à Berlin modifie non seulement les infrastructures mais aussi les lieux pour les gens. Et le déplacement du centre de gravité de l'Allemagne vers l'Est. Alors, les arguments lors de la décision de juin 91 sont connus. Hein, il y a les deux grandes familles, ceux qui veulent rester à Bonn et ceux qui plaident pour Berlin, avec essentiellement l'argument pour Berlin d'un rééquilibrage. J'allais dire, les conséquences, elles sont à la mesure des arguments. C'est-à-dire, on a dit d'un point de vue politique, financier, symbolique, c'est important d'aller à l'Est, sauf que les répercussions, elles sont aussi symboliques, mais aussi financières, ça a coûté très cher. Et en termes politiques, c'était, voilà, est-ce que ça modifie le visage de ce pays et en particulier dans le regard des voisins. Hein, il ne faut jamais oublier les voisins. Le regard porté sur l'Allemagne par les voisins, toujours facilement teinté d'une certaine inquiétude lorsqu'il s'agit d'avoir une Allemagne un peu plus grande, un peu plus nombreuse et qui en plus se déplaçait à Berlin. Il y a un certain nombre de froncements de sourcils. Un des arguments avait été aussi de montrer la capacité de l'Allemagne à prendre ce virage en déplaçant le centre de gravité. On montrait que c'était un autre pays. Et donc là, on peut se retourner cette question de plein de façons, mais en n'oubliant pas aussi, si je redescends là au niveau local, la transformation pour la ville de Berlin elle-même. Ce que ce déménagement a signifié pour la ville de Berlin, en tant que siège politique, déplacement du Bundestag, le Reichstag, hein, peut-être déjà aller à Berlin. Quand moi j'étais jeune, Berlin, c'était pas l'endroit où on allait faire la fête pour boire un coup et faire des vacances avec des gens qui parlaient pas allemand. On allait à Berlin, on parlait allemand. Et on allait voir un endroit un peu compliqué. Hein. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe, hein, qui modifie. C'est vraiment une vraie grande mutation. En même temps, le passage à la République de Berlin, ce n'est pas seulement le changement de la capitale. Est-ce que ce n'est pas aussi la fin de la vieille RFA? Est-ce que ce n'est pas la fin de la République de Bonn, République de Bonn étant tout ce qu'il y avait avant? C'est-à-dire... de la RFA, de l'époque de la division, de la tradition des partis, la CDU, le SPD, avec le FDP au milieu, l'Allemagne de Kohl, enfin, vous voyez, c'est aussi ça, le passage à la République de Berlin. C'est la fin de la question allemande. Est-ce que, finalement, simplement, devenir République de Berlin, ben, c'est dire adieu à cette partie d'histoire qui s'est close, qui est terminée absolument, et qui était donc temporaire, provisorium, enfin, tout ce que vous avez dans votre autre cours. C'est la fin aussi de cette petite RFA très provinciale, jugé très au bord du Rhin, un autre rythme par rapport au rythme trépidant de la ville lumière, vous avez déjà dans toute la littérature et le cinéma allemand, qui est Berlin. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en termes de mémoire, cette République de Berlin, est-ce qu'elle a repris en allant, enfin, en quittant Bonn et en allant à Berlin, tout le bagage, cette pérennité hein, que j'avais, antitotalitaire, le pluralisme, la démocratie, ces éléments-là. Est-ce que c'est finalement l'histoire d'un succès ? Est-ce que on devient une République de Berlin quand on se rend compte que la République de Bonn, c'est un grand succès ? La Volksgeschichte en allemand, hein, qui n'a pas été... On peut le discuter, mais ça, c'est aussi une façon de voir le sujet. Alors après, on peut nuancer, je vais aller vite parce que là, ce sont vraiment des éléments factuels que vous connaissez, on peut faire un bilan de l'évolution interne. Si je prends maintenant les mutations comme résultat, l'évolution interne des 15 années selon les domaines. Si on prend les changements dans le système social, bon bah là, c'est l'occasion de développer hein, les réformes de Hartz, du rapport de 2002, la promesse de diviser le chômage par deux, voir ce que je disais un peu au-dessus, et puis de flexibiliser le marché de l'emploi en réduisant les charges des entreprises. Là, on sait très bien que les deux parties de l'Allemagne n'ont pas été touchées de la même façon, de la même ampleur. Et pour l'Est, ça a signifié, en plus de la casse sociale, entre guillemets, du choc de la réunification, ça a été un élément supplémentaire de perception d'être maltraité et que la population qui travaille serait finalement sacrifiée au service d'un capitalisme débordant. Et puis, les changements en termes sociaux, mais sociaux au sens aussi de la société, ce sont toutes les autres réformes de la coalition rouge-verte, ne les oubliez pas. Hein, tout ce qui est changement par rapport à la tradition de l'Allemagne de Kohl, les réformes issues un peu des 68ards, hein, cette génération qui est... C'est donc la mutation, et là, ça ne concerne pas que l'Est, ça concerne l'ensemble de l'Allemagne, dans le domaine de l'environnement. Décision d'arrêter les centrales nucléaires, poussée par les Verts. Alors on sait qu'il y a eu des allers-retours, c'était un peu compliqué, mais le droit de la nationalité, hein, qui finalement finit par accepter que l'Allemagne soit un pays d'immigration, ce qui avait toujours été refusé, la loi du 1er janvier, qui entre en vigueur le 1er janvier 2000, la hausse du nombre des naturalisations, qui donc transforme aussi la société allemande dans son apparence et dans la façon de se regarder elle-même, hein, ce qui est dedans, ce qui est dehors. Et puis, la loi sur le mariage, sans se marier, enfin le mariage qu'on a pu appeler de plein de façons, on peut dire mariage pour tous, en 2001, c'est aussi une rupture quand même assez importante pour l'évolution de ce pays. Et puis, la réforme des retraites par capitalisation, n'oubliez pas celle-là, hein, les retraites, c'est des sujets qui concernent à peu près tous les pays. Alors, ces mutations, on peut les prendre une fois qu'on a regardé là, j'ai pris social, sociétal, un petit peu, à l'intérieur du système, les reconfigurations de la culture politique. Hein, les effets de l'unité, là, sont très très forts, en plus du changement de génération. Là aussi, je ne vais pas développer le cours, mais les partis allemands eux-mêmes ont changé dans un paysage qui change. Hein, le paysage est en mutation et les partis eux-mêmes changent. Hein, fragmentation du paysage, de plus en plus de partis. Le SPD qui subit cette tension entre l'aile modernisatrice de Schröder contre l'aile plus traditionnaliste d'Oscar Lafontaine, qui se déplace vers le centre, qui finit par dire « Wir sind die Partei der Mitte hein, », qui l'eût cru à l'époque de Hollenhauer ou de Schumacher. Je retourne dans votre sujet du tronc commun. Hein, je vous avais dit à Schumacher, à Kurt Schumacher, dans une des batailles d'Amiteux, vous l'assassiniez sur place. Pour les Verts, apparition des Verts. Alors, ils sont apparus avant. C'est un parti récent, hein, mais qui arrive au pouvoir, avec une génération, des idées, qui s'unit à Bündnis 90 en 93, enfin, qui vraiment bouge aussi. Et même la CDU bouge. Même la CDU bouge avec le départ d'Helmut Kohl, changement de génération, les caisses noires, hein, les caisses noires, les problèmes de financement d'un parti qui a donc conduit à ce que l'Allemagne, comme la France, comme l'Europe, se soit donné des règles très claires de financement des partis, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé, etc. Donc ça, ce sont à peu près tous les partis sont concernés. Et puis le communisme. Le communisme qu'on appelle socialisme, selon qu'on regarde la tradition est-allemande, qui, du point de vue de l'Allemagne de l'Ouest, c'est un retour du communisme sur le paysage partisan. Je vous rappelle qu'il y a... KPD avait été interdit en 1956, le DKP est reconstitué en 1968, mais les K-Gruppen, on ne les voyait pas beaucoup. Hein. Et là, on se retrouve avec un PDS, qui était l'ancien SED, qui s'est changé en 1989, et qui, en 2005, va s'allier après avec cette construction un peu étrange du VASG, du VASG, qui s'est séparé du SPD en 2005, avec les syndicalistes autour de La Fontaine. Hein. Donc, vous voyez, on a vraiment des transformations très importantes qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce que ça, on l'a toujours. Et puis, on n'oublie pas, s'il vous plaît, la montée de l'extrême droite. Alors, la montée de l'extrême droite, elle avait commencé avec les Républicains dans les années 80, hein, ça n'ont plus jamais oublié que ce n'est pas un truc nouveau. Et puis, la montée de l'extrême droite à l'échelle régionale, en particulier dans les Nouveaux-Länder, avec une visibilité ou une visibilisation de l'extrême droite. Parce qu'il y avait des néo-nazis en RDA, mais on ne les montrait pas. Et qui est accompagné d'attaques xénophobes, de meurtres, enfin, il y a vraiment quelque chose qui est aussi la graine de ce qu'on a aujourd'hui. Donc vous voyez, on a à l'intérieur du système des reconfigurations quand même très importantes. Et puis là, j'insisterai un tout petit peu aussi sur l'environnement, parce que l'environnement devient une thématique centrale à ce moment-là, pas seulement parce que les Verts sont non seulement apparus, mais ont réussi à arriver au pouvoir, aussi au niveau régional, mais et puis parce que les Verts ont modifié le style politique aussi. Hein, l'arrivée, c'est un style différent qui est arrivé au Bundestag, hein, qui est un style un peu ébouriffant pour la génération d'Helmut Kohl. Mais aussi, et ça on le trouve, il y a des travaux de recherche actuellement qui sont très très intéressants, que les questions environnementales se sont trouvées d'un seul coup légitimes pour tous les partis. Et on voit comment, dans les années 2000, la CDU dit « Mais nous, on a commencé très très tôt à parler d'environnement. » Et le SPD dit « Mais nous aussi, nous avons fait cela. » Et donc, cette légitimité soudaine d'une thématique qui est aujourd'hui devenue complètement centrale. Et puis, je terminerai dans cette partie-là, qui est la dernière partie avant une petite conclusion. Identité, mémoire, qui sommes-nous? Est-ce que cette Allemagne, ces Allemands, en 2005, est-ce qu'ils ont vraiment changé? Sind wir ein Volk? On peut le poser comme ça. Alors, on peut parler de ce sujet-là, on peut le traiter de plein de façons aussi. Il y a eu des changements, il y a eu des bouleversements psychologiques très importants qu'il ne faut pas minimiser. En particulier, c'est pour ça que j'avais commencé par les espoirs, les attentes des gens qui descendaient dans la rue, en RDA, ou qui voulaient vite l'unification. Il y a eu quand même des retours de bâton extrêmement importants qui ont eu des effets psychologiques importants, un traumatisme, on peut le dire comme ça, identitaire en particulier, qui a conduit à quelque chose qui dure jusqu'à aujourd'hui et qui est la reconfiguration de la mémoire de la RDA. À l'intérieur même de cette période, sans aller jusqu'à nostalgie, mais de la perte, du sentiment de la perte, et en même temps, il faut sauver quelque chose, il faut pérenniser quelque chose, se organiser autour des noms de rues, vous savez, débaptiser les noms des rues, regarder les noms des rues, le patrimoine, rien, qu'est-ce qu'on en fait. Jusqu'à la question de, est-ce qu'on est une nation? Est-ce que la question nationale a perdu absolument de toute excitation? C'est plus un sujet. Est-ce qu'on est, surtout quand on est tous ensemble, à encourager les joueurs de football. C'est toujours un vecteur important. Voilà, j'ai parlé longtemps, donc je vais m'arrêter avec quelques mots de conclusion, mais vraiment, qui seraient des pistes, hein, pour vous aider à réfléchir, puis peut-être un peu pour lancer un peu aussi la discussion. Was bleibt, aurait dit Christa Wolf, hein, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste en 2005? Je vous ai dit au début, c'est artificiel, on coupe 90-2005, c'est un flux, mais il y a des phénomènes qu'on peut souligner, peut-être pour conclure, de continuité et de postérité. Donc les continuités, c'est peut-être les permanences. Je n'ai pas arrêté de vous parler de changement, mais à certains détours de phrase, je vous ai dit qu'il y avait plein de choses qui n'avaient pas changé et qu'on ne voulait pas qu'elles changent. Hein. Et donc, les choses qui n'ont pas changé sont de nature constitutionnelle, l'ordre parlementaire, les règles du jeu parlementaire, le rejet du nazisme comme raison d'État, le soutien d'Israël comme raison d'État, le choix du multilatéralisme, la politique de la retenue, tout ça c'est... et l'orientation vers l'exportation. Enfin, voilà, ça, c'est depuis le 19e siècle. Hein. Donc, on a le fait de s'intéresser à ce qui change, et ça, c'est un appel à vos intelligences, en dehors du concours que vous passez, c'est toujours penser les choses. C'est pas parce qu'on parle de ce qui change qu'il faut oublier ce qui ne change pas. Hein. Ces lignes de continuité qui se veulent donner à la postérité, parce qu'elles sont normatives, elles sont extrêmement chargées d'affect, de fierté. Mais aussi, en même temps, l'apparition d'une extrême droite politique, avec les républicains, ceux qui osent s'appeler républicains. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec le mot puissance, hein? Surtout, je parlais tout à l'heure du regard des voisins. On ne veut pas être une puissance, mais en même temps... C'est un peu difficile de dire que l'Allemagne n'est pas une puissance. Donc ces difficultés à maintenir un discours sur soi de puissance intermédiaire, on est juste en appoint, on intervient toujours en deuxième rang, et puis la réalité des faits. Alors après 20 ans, puisque 2005 on est 20 ans après, on peut reprendre les questions du début, on a vu que c'était à la fois un mouvement et puis un résultat en 2005, mais qui continue. Je pense que ce qui... A posteriori, ce qui nous intéresse, comme j'ai dit au début, c'est interroger la portée des mutations et surtout leur qualité. On a vu qu'il y avait une dimension essentiellement de culture, qu'elle soit politique, qu'elle soit la culture de la représentation de ce qu'on est, pas culture au sens des belles lettres, hein, mais de l'image de soi et de la façon d'être ensemble. 20 ans après, on sait que l'évolution démographique a été très divergente entre l'Est et l'Ouest de l'Allemagne. Dans l'ensemble, il n'y a pas assez d'enfants en Allemagne, mais à l'Est, il y a eu perte de population. Et pas seulement par des fuites. Il y a vraiment, là, c'était ma question du début, de la Angleichung. Est-ce qu'on est finalement devenu unifié parce que de plus en plus pareil? Eh bien, il y a des domaines où c'est frappant. Je n'ai pas fait de PowerPoint, mais j'aurais pu vous montrer la série de cartes, hein, des tas de cartes qu'on peut montrer, que ce soit en termes de, je ne sais pas, évidemment de vote, d'orientation politique, mais aussi de type de voyage que l'on fait, des installations, des types de voitures que l'on a, est-ce qu'on a une voiture électrique ou pas, etc. Vous avez à chaque fois l'Est et l'Ouest qui sont deux espaces différents. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a cette... Et puis, il y avait un sondage en 2023, donc il n'y a quand même pas très très longtemps, 40% des Allemands de l'Ouest disaient que les deux partis ont fortement convergé, l'idée de Zusammenwachsen. En revanche, à l'Est, il y avait 35% qui disaient. Donc il y a aussi dans la lecture qui est faite de la question, vous voyez, qui est différente. C'est clairement une période révolue, mais les débats actuels sont déjà dans cette période. La population, c'est qui être allemand? La société? Population d'immigrants, pays d'immigration ou pas. Le paysage partisan, vous voyez le résultat qu'on a aujourd'hui, il s'est progressivement mis en place à ce moment-là, même si l'irruption de l'AFD c'est 2013. L'orientation mondiale et tous les problèmes que ça pose, ce sont les mêmes. Et puis, parce que je veux finir par une bonne touche quand même, le maintien quand même d'un pays, même si on l'observe de l'extérieur avec une inquiétude parfois, plus ou moins importante, ça reste quand même un grand succès par rapport à ce qu'a été le nazisme et l'installation de normes de fonctionnement de la vie collective, de fonctionnement politique, de la recherche du compromis, etc., qui, malgré tous ces changements des décennies, reste jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je m'arrête. Merci pour vos questions.